Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, bienvenue dans cette émission qui vous propose, vous le savez, une revue des faits saillants de la semaine. Merci d'être au rendez-vous. Grâce aux envoyés spéciaux et aux correspondants de RFI, nous allons aujourd'hui nous rendre en Birmanie, en Israël, au Liban, en Égypte, mais aussi au Niger ou bien encore en Éthiopie. Nous sommes cette semaine en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction de la revue Esprit, notre partenaire. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur notre site www.rfi.fr, sur votre moteur de recherche préféré et sur l'application RFI Pure Radio. Et avant de commencer notre voyage, j'indique à nos auditeurs parisiens et uniquement à nos auditeurs parisiens que comme chaque année le changement d'heure, le passage à l'heure d'été donc, va décaler la diffusion de notre magazine à 11h10, donc 11h10 à partir de samedi prochain. Pas de changement en revanche pour vous qui nous écoutez en Afrique, surtout ne changez rien. Anne-Lorraine Bujon, il y a comme un sentiment de lassitude. Après un nouveau massacre aux États-Unis, un homme de 21 ans a été inculpé pour la tuerie de lundi dans un supermarché de Boulder dans le Colorado, au cours de laquelle 10 personnes, dont un policier, ont été tuées. À Washington, le président Joe Biden a appelé le Congrès à agir sur les armes à feu et s'est dit en faveur de l'interdiction des fusils d'assaut. Correspondance d'Anne Corpé.
I don't need to wait another minute, let alone an hour.
Il ne faut pas attendre une minute pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies. J'implore les parlementaires d'agir sans attendre, a déclaré le président américain. Deux projets de loi qui restreignent les ventes d'armes ont déjà été adoptés à la Chambre, mais les faire voter au Sénat semble hors de portée. Lors d'une audition à la commission judiciaire ce mardi, les républicains ont répété leur hostilité à tout projet qui porte atteinte au droit de porter des armes. Ted Cruz, sénateur de Floride.
Chaque fois qu'il y a une fusillade, on rejoue cette pièce de théâtre ridicule. Après chaque tuerie de masse, les démocrates de cette commission proposent de retirer les armes aux citoyens obéissants, parce que c'est leur objectif politique.
Faute d'obtenir l'appui d'élus républicains, la seule manière pour les démocrates de faire voter une loi sur les armes serait de s'affranchir de la règle du filibuster qui permet à l'opposition de bloquer tout projet qui ne réunit pas les deux tiers des voix au Sénat, mais les démocrates sont eux-mêmes divisés sur la pertinence de ce changement de règle à la Chambre haute.
Une semaine d'actualité donc. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à distance cette fois-ci. Vous êtes, je l'ai dit, directrice de la rédaction de la revue Esprit. Nous collaborons depuis plusieurs mois maintenant pour notre plus grand plaisir. Comme je le disais, il y a comme un sentiment de lassitude face à la litanie des tueries aux États-Unis, avec toujours la même question du port d'armes. Alors je vous pose la question, éprouvez-vous vous aussi ce sentiment de lassitude, vous qui connaissez très bien les États-Unis ?
Oui, de lassitude, voire même il y a quelque chose d'un peu désespérant dans cette récurrence des fusillades de masse qui font parfois un nombre de morts terrible. On se souvient de plusieurs épisodes ces dernières années, notamment dans des écoles qui frappent particulièrement l'opinion publique. Et là, il y a eu ces deux événements à Atlanta en Géorgie, puis à Boulder dans le Colorado. Mais en réalité, quand on fait le compte, comme l'a fait le New York Times hier, il y a eu 29 fusillade le mois dernier aux États-Unis. Donc c'est vraiment un problème massif et récurrent. Et ce qui est très décourageant, c'est que non seulement on ne progresse pas dans ce domaine, mais si quelque chose, je crois qu'on régresse. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les années 90 des lois pour mieux contrôler le port d'armes, qui avait le droit de se procurer d'armes et quel type d'armes. Et puis ces lois sont devenues obsolètes. Le pouvoir de la NRA, le lobby des armes à feu, n'a fait que grandir. Et puis le droit au port d'armes est devenu une grande cause des républicains. Donc c'est maintenant un sujet très politique, très partisan. On a entendu Ted Cruz qui s'insurge absolument contre la possibilité de réglementer l'usage des armes à feu. Et donc même si Joe Biden est tout à fait sincère, je crois, et déterminé à faire quelque chose, il en était question dans sa campagne d'ailleurs, d'une volonté de mieux réglementer, contrôler le port d'armes, et que Joe Biden en fait s'est déjà retrouvé aux avant-postes deux fois dans des tentatives de faire passer des lois pour mieux contrôler les armes à feu, avec succès dans les années 90, mais en rencontrant un échec en 2013. Donc il est sincère et déterminé, mais il faudra qu'il fasse avec le Congrès. Et or, au Congrès, on le sait, les démocrates ont une majorité à la Chambre, mais le Sénat est vraiment très nettement divisé entre démocrates et républicains, et donc ça va être très très difficile de faire passer quoi que ce soit.
Alors, Anne-Lorraine Bujon, vous nous proposez ce mois-ci un numéro particulièrement intéressant et qui est vraiment d'actualité sur fond de Covid-19, bien sûr. Un numéro sur la science, il est intitulé « Science sans confiance ». Ça me rappelle « Les sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme » de Rabelais. Je pense que c'est à ça que vous avez voulu faire allusion. Un numéro très critique dans le sens positif du terme.
Oui, alors en fait c'est un numéro qui est parti du sentiment qu'on avait de vivre un moment très paradoxal, un moment de toute évidence de très grande sophistication technique et scientifique. On pense bien sûr au plus près de nous à l'exploit qu'a représenté le fait d'arriver à identifier ce virus inconnu il y a encore à peine un an, de l'identifier lui, d'identifier les modes de contamination, les variants, et puis d'aboutir en des temps records à non pas un, mais plusieurs vaccins qui parviennent à contrôler l'apparition des symptômes du Covid-19. Donc, on est bien entendu dans un moment de grande sophistication technique et scientifique, et dans le même temps, on assiste en fait à une recrudescence, une prolifération de croyances étranges, de superstitions, de théorie du complot, de fondamentalisme religieux. Donc ça montre bien que on n'a pas affaire à une situation où il y aurait deux vases, si vous voulez, où plus la science progresse, plus la croyance recule. Il se passe quelque chose de beaucoup plus complexe. La relation entre ces deux régimes, ces deux façons de penser, de comprendre le monde, la raison scientifique d'un côté, la conviction et la croyance de l'autre, qui sont très liées à la confiance. Il y a en fait des relations entre la science et la croyance qui sont beaucoup plus croisées et complexes que ce qu'on pourrait croire. Donc on ne peut pas se satisfaire simplement d'opposer l'une et l'autre. Il faut tenter de les remettre en dialogue et de comprendre comment elles contribuent toutes les deux à notre façon d'être au monde.
C'est le thème effectivement de la contribution, par exemple, de Camille Riquier. Michael Fossel, le philosophe, lui parle même d'ambivalence des passions à l'égard de la médecine.
Oui, le texte de Michael Fossel, qui s'appelle « De la croyance au savoir et retour », note que on a eu affaire à des discussions très très passionnées sur la médecine, sur le virus, sur les remèdes, et on pense notamment ici, bien sûr, à l'affaire Raoult. Les passions se sont déchaînées pour ou contre le médecin de Marseille, pour ou contre son hydroxychloroquine. Et c'est là encore très paradoxal parce qu'évidemment, nous sommes très peu à être médecins ou à avoir le niveau de connaissance ou le niveau de savoir médical et scientifique qui nous permettrait de juger vraiment de la qualité de ces remèdes, voire même des méthodes scientifiques qui ont été utilisées ou non pour en décider. Mais si on était tellement passionné parce que la médecine avait à nous dire de cette épidémie, mais c'est évidemment parce qu'on était tous concernés au premier chef et parce que cette médecine, cette science, par le truchement du conseil scientifique qui conseillait le gouvernement, chacun percevait qu'elle allait avoir des conséquences directes sur ce qu'on serait en mesure de faire ou pas le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après. Donc en réalité, notre salut en quelque sorte dépendait de ces jugements scientifiques, et on s'est tourné vers les médecins comme en d'autres époques on se serait tourné vers des prêtres en attendant qu'ils nous délivrent une perspective de salut.
7 jours dans le monde.
Partons maintenant pour Israël. Anne-Lorraine Bujon, où mardi c'était jour de vote. Pour la quatrième fois en moins de 2 ans, les Israéliens ont élu leurs députés. Le pays, on le sait, est en pleine crise politique. La société est divisée, lassée par ces scrutins à répétition. Ces élections législatives ressemblaient une fois encore à un référendum pour ou contre le Premier ministre. Reportage dans un bureau de vote à Jérusalem, Sami Bourhalifa.
Un quatrième scrutin en moins de 2 ans et pourtant les Israéliens continuent de jouer le jeu. Dès l'ouverture de ce bureau de vote, ils sont déjà nombreux. Pierre vient de glisser son bulletin dans l'urne.
J'espère que cette fois-ci, il y aura une décision plus claire et que Benjamin Netanyahu pourra former une coalition plus large et que les électeurs israéliens exprimeront leur reconnaissance, parce qu'on est le seul pays qui sort de la pandémie, et je pense que c'est grâce à lui, c'est grâce à ses décisions, et rien que cette raison-là suffit, à mon avis, pour justifier de voter pour lui.
Dans la queue, Daniel attend son tour. Campagne de vaccination ou pas, lui est venu exprimer son ras-le-bol contre le Likoud, le parti du Premier ministre.
J'ai hésité à voter Netanyahou, je l'ai déjà fait par le passé. Mais cette fois-ci, je ne voterai pas pour le Likoud. Il ne faut pas que le corona soit l'arbre qui cache la forêt. Ça ne doit pas dédouaner, à mon avis, des problèmes politiques et sociaux qu'il y a en Israël.
Des problèmes accentués par la crise sanitaire, les effets bénéfiques de la campagne de vaccination sur l'économie ne se font pas encore sentir.
Benjamin Netanyahou a remporté le scrutin, mais il n'a pas la majorité absolue à la Knesset. C'est un grain de sable dans les rouages de l'économie mondialisée. Le blocage du canal de Suez perturbe pour le moins le trafic maritime dans une zone stratégique du monde. Au Caire, Alexandre Bouchianti nous a tout expliqué hier.
Toutes les tentatives pour renflouer le navire ont échoué. Le bulbe de la proue du Ever Given est profondément encastré dans la berge est du canal de Suez, tandis que la poupe touche la berge ouest. Cela rend les manœuvres de remorquage extrêmement difficiles. Les dragueurs envoyés pour dégager la berge autour de la proue ont échoué du fait de la nature rocailleuse du terrain. On évoque maintenant la possibilité d'alléger le navire de plus de 200 000 tonnes de son carburant et de l'eau des ballasts. Mais cela pourrait faire chavirer l'Ever Given sous le poids des 20 000 conteneurs qu'il transporte. L'autre tentative est de transborder les conteneurs, mais l'Égypte n'a pas la grue flottante nécessaire. En attendant, un embouteillage de près de 200 navires s'est formé au nord et au sud du canal. Les pertes directes pour l'Égypte sont estimées jusqu'à présent à une cinquantaine de millions d'euros.
À suivre donc, et puisque nous parlons de l'Égypte, rappelons bien sûr la collision de 2 trains hier, on vous en parle dans nos journaux. À noter aussi dans l'actualité internationale que lundi, la monnaie turque a dégringolé. La livre a plongé sur les marchés d'échange en Asie avant de se reprendre un peu. La bourse d'Istanbul a elle aussi été prise dans la tourmente. Les marchés ont réagi négativement au limogeage le week-end dernier du directeur de la banque centrale turque, auquel le président Erdogan reprochait d'avoir trop relevé les taux d'intérêt. Partons pour la Birmanie maintenant, Anne-Lorraine Bujon à Rangoon. Journée silencieuse mercredi, rue vide, magasin fermé. La contestation contre le coup d'État continue à trouver de nouvelles formes d'expression. Mais ce silence cache en quelque sorte les préparatifs de plusieurs groupes qui envisagent une riposte armée depuis plusieurs semaines, fatigués et frustrés de subir les violences de l'armée et portés par l'idée qu'un jour, la Birmanie verra naître sa première armée fédérale contre les putschistes à Rangoon. Juliette Verlin.
Dans une maison du quartier résidentiel de North Dagon, Eiji et ses amis discutent de l'organisation des escouades de défense et d'attaque qu'ils forment depuis des semaines. Au milieu des tasses de café, ils déposent un cocktail Molotov et un lance-pierre. Avec un sourire, le jeune homme de 33 ans qui travaillait dans le marketing avant le coup d'État explique qu'il sait s'en servir depuis qu'il est enfant.
La seule différence, c'est que ce n'est pas une bille de boue, c'est une pointe de flèche.
Eiji est à la tête d'une escouade de 25 personnes qu'il répartit entre porteurs de boucliers, attaquants et médecins. Ils attendent leur première livraison d'armes à balles réelles dans les prochains jours.
C'est en lien avec les armées ethniques.
Chaque pistolet leur a coûté environ 750 euros et l'argent n'est pas un problème.
Certains de mes amis sont très riches, ils ont leur réseau, donc je les tiens au courant. La plupart veulent rester anonymes.
La réunion est également l'occasion de vérifier les prix du marché.
Là maintenant, on peut acheter ça pour 100 euros ?
Des balles ? Oui, c'est possible.
Non, cette arme ?
Cette arme, tu dois attendre une semaine.
Les escouades comme celle d'Eji sont réparties dans plusieurs quartiers en périphérie de Rangoon, là où la répression est la plus violente. Leur plan est simple. Nous espérons que l'armée fédérale déclarera la guerre. À ce moment-là, l'armée ne sera plus concentrée sur nous. C'est à ce moment que nous devrons attaquer à notre tour. Et en attendant, Eddy et ses amis continuent à entraîner leurs escouades et à protéger les quelques manifestants qui sont encore dans les rues.
La situation en Birmanie est à suivre évidemment dans nos journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr. Anne-Lorraine, avant de vous retrouver, prenons le chemin de Beyrouth. La crise économique et politique qui frappe le Liban provoque le départ de plus en plus de Libanais diplômés, une fuite des cerveaux qui touche tous les secteurs et notamment les hôpitaux. En un an et demi, 1000 médecins auraient quitté le pays du Cèdre, soit 20% du total des médecins au Liban. Face à l'hémorragie, l'ordre des infirmiers a décrété l'état d'urgence. Une infirmière libanaise sur le départ a accepté de témoigner au micro de notre correspondant Noé Pignède.
Après 26 ans de carrière comme infirmière dans un hôpital réputé de la capitale libanaise, Mireille a décidé de faire ses valises. Le mois prochain, elle décollera pour la France où elle a trouvé un poste dans une clinique. Une décision motivée par la dégradation du niveau de vie de sa famille.
Comme je suis une infirmière expérimentée, je touchais plus que 2 000 $. J'avais la sécurité sociale pour mes enfants, j'avais une assurance maladie de première classe, j'étais très bien. À présent, on touche 200 $. On a peur chaque jour si on va se réveiller avec électricité ou non, avec internet ou non. On a marre de ça.
Mais ce qui a surtout convaincu Mireille, son mari et ses deux filles de quitter le pays, c'est l'explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août dernier et fait 200 morts. Ce jour-là, l'infirmière a vu défiler des centaines de patients dans son bloc opératoire.
On a été tous sollicités à travailler une nuit horrible, une nuit noire, pas nuit blanche. C'était traumatisant à vie. Je ne suis pas contente de quitter. Je me sens forcée à quitter. Bien sûr, je sens une amertume. Je ne pars pas pour vivre la vie en rose. Mais au moins, je vais vivre dans une stabilité psychologique. Je suis consciente que l'intégration va être pas facile aussi, mais l'avenir des enfants... C'est ça qui prime.
Ses filles de 15 et 18 ans devraient la rejoindre à Paris à la fin de l'année scolaire. La plus grande espère être acceptée en fac de médecine et faire sa vie loin du Liban.
Suite d'une semaine d'actualité sur RFI, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction de la revue Esprit, qui titre ce mois-ci sur la science, science sans confiance. Mais vous parlez également, Anne-Lorraine, dans ce numéro de l'Irak et vous vous posez une question. Un avenir pour l'Irak ? Telle est la question dans un pays qui est en guerre ou qui est en crise depuis 1980.
Oui, nous aussi, à la revue Esprit, on essaye de faire un petit tour du monde et de sortir un peu de nos frontières pour regarder ce qui se joue ailleurs. Et nous avons dans ce dossier un petit ensemble de 3 textes sur l'Irak, qui sont des textes qui ont été rassemblés par Antoine Garapon et Pierre Morel à l'issue d'un colloque qui s'était tenu au Collège de France en mars 2019. Colloque qui avait réuni des intellectuels irakiens, libanais, syriens et français pour parler de la situation très difficile au Moyen-Orient. On vient d'entendre un reportage sur le Liban. Et pour parler aussi, bien sûr, des liens entre le Moyen-Orient et l'Europe et du point auquel cette histoire est notre histoire commune. Donc il y a 3 textes de Faris Kamal Nazmi, de Faris Aram et de Saad Saloum qui évoquent un pays littéralement traumatisé, un État, une société traumatisée par 40 ans de violence, de guerre depuis les années 80, une succession de sanctions économiques, des cycles de violence et de terreur et puis bien sûr, beaucoup plus près de nous, le règne de l'État islamique avec la nouvelle vague de violence que ça a engendré en Irak. Alors, ces 3 textes nous parlent d'un pays ravagé, mais au-delà de la situation contemporaine, en fait, ils ont le mérite de s'interroger sur ce qui vient de plus loin, de divisions communautaires qui sont déjà très anciennes dans le pays, puisque c'est un pays qui a toujours été travaillé par des oppositions, des conflits entre différents courants de l'islam, mais aussi entre les musulmans et d'autres minorités, les yézidis, les chrétiens, les sabéens mandéens, de telle sorte que en fait la société irakienne est marquée par des divisions, des méfiances, des inquiétudes, une grande peur en réalité des autres communautés qui conduit parfois au sentiment qu'on n'a plus d'autre choix que d'être menacé ou de menacer à son tour, de risquer d'être tué ou de tuer à son tour. Donc Donc l'ensemble des questions qui se posent pour l'Irak maintenant sont des questions très difficiles. Comment réconcilier un pays, comment reconstruire, alors que ces identités claniques ou religieuses souvent priment sur le sentiment d'une appartenance commune à une seule nation. Donc il y a aujourd'hui tout un travail de reconstruction à faire et c'est un travail de grande ampleur. Les associations auront tout leur rôle à jouer. Le dialogue interreligieux aussi fait partie de toute évidence de ce travail de reconstruction. Mais rien ne pourra se faire si dans le même temps ne se construit pas un État neutre, impartial et qui serait prêt à lutter contre le clientélisme et la corruption. Donc cet ensemble de textes est un peu déprimant dans le sens où il fait un constat lucide sur un pays, une société ravagée, mais il veut croire dans un avenir pour l'Irak qui passe par la réconciliation des différentes communautés.
Sept jours en France.
Faisons une escale en effet en France. Maintenant, Anne-Lorraine Bujon, les tensions sont vives entre Paris et Pékin. L'ambassadeur de Chine en France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay juge inacceptable, dit-il, certains propos insultants tenus à l'encontre de parlementaires et d'un chercheur français, Anastasia Becchio.
Ça n'est pas en s'en prenant à la liberté académique, à la liberté d'expression et aux libertés démocratiques fondamentales que la Chine répondra aux préoccupations légitimes de l'Union européenne. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères condamne les dernières sorties de la diplomatie chinoise à l'égard de ressortissants français. L'ambassade à Paris s'est particulièrement déchaînée ces derniers jours sur les réseaux sociaux contre le chercheur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Antoine Bondaz, qui a dénoncé les pressions chinoises sur des parlementaires qui envisagent de se rendre à Taïwan. Parmi eux, le président du groupe d'échange France-Taïwan du Sénat, Alain Richard, avait reçu une lettre de mise en garde de l'ambassadeur de Chine. Le Quai d'Orsay avait répliqué que les élus français étaient libres d'aller là où ils le voulaient. Le ministère français des Affaires étrangères juge également inacceptable la décision de Pékin de sanctionner 10 ressortissants européens, dont l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, en représailles aux sanctions visant la répression contre la minorité musulmane des Ouïghours. En avril dernier, l'ambassadeur de Chine avait été appelé au Quai d'Orsay après la publication sur le site de sa représentation d'un article où les personnels des maisons de retraite françaises étaient accusés d'avoir abandonné leur poste et laissé mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie.
La France et le monde en quelque sorte suite, nous avons une dette envers la Libye très claire, une décennie de désordre. Ces mots d'Emmanuel Macron adressés au nouveau dirigeant libyen mardi à l'Elysée sonnent comme l'aveu d'une erreur. L'intervention de 2011 contre Mouammar Kadhafi, encouragée à l'époque par le président français Nicolas Sarkozy et qui a eu des répercussions, on le constate presque chaque jour dans le Sahel, Claire Flage.
Par une phrase laconique, 6 secondes, Emmanuel Macron a pour la première fois reconnu officiellement la responsabilité de la France dans les désordres qui agitent la Libye et une partie de l'Afrique depuis 10 ans. Les chefs d'État du Sahel se plaignent régulièrement des conséquences de l'intervention des Occidentaux contre Mouammar Kadhafi en 2011. Sa chute les a non seulement privés de la manne financière de Tripoli, mais a dispersé des combattants en armes dans toute la région et provoqué l'arrivée massive de mercenaires de toute nationalité, comme le dénonçait encore Idriss Déby, le président tchadien, au micro de RFI l'an dernier. Certains acteurs de la coalition de l'époque avaient déjà fait leur mea culpa. L'ex-président américain Barack Obama jugeait même que l'intervention en Libye, à l'appel de Nicolas Sarkozy, était sa plus grande erreur. Selon l'analyste Antoine Glaser, Emmanuel Macron réalise cet aveu d'une culpabilité française moins pour souligner la responsabilité de son prédécesseur que pour tenter de reprendre pied en Libye, alors que la Turquie, la Russie et l'Italie ont regagné du terrain.
Claire Fage, donc en déplacement à Valenciennes, dans le nord de la France, cette semaine, Emmanuel Macron a considéré la vaccination comme une priorité nationale. Elle est théoriquement ouverte aux personnes âgées de 70 à 75 ans maintenant, et le chef de l'État promet une nouvelle fois d'atteindre 10 millions de vaccinés à la mi-avril, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, alors que la situation sanitaire s'aggrave, plombée par une campagne de vaccination poussive et un reconfinement territorial laborieux, Emmanuel Macron et le gouvernement cherchent une issue de secours. recours, en quelque sorte, Valérie Gasse.
Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de communication, le gouvernement est à la recherche de la bonne formule pour reprendre la main et n'arrive pas à la trouver depuis que Jean Castex a été envoyé au front pour annoncer un reconfinement qui ne devait pas porter ce nom, jugé pas adapté par Emmanuel Macron dès le lendemain et dont la mise en œuvre a atteint des sommets de complexité bureaucratique avant une tentative de pédagogie via un slogan « dedans avec les miens, dehors en citoyen » qui n'a réussi qu'à susciter des détournements parodiques sur les réseaux sociaux. C'est un raté collectif, concède Morose, un proche du Premier ministre. Un raté collectif qui pointe une stratégie sanitaire de plus en plus critiquée, dont l'efficacité est remise en cause par la flambée de l'épidémie sur laquelle alertent les médecins et qui touche de plus en plus de territoires. Du coup, la perspective évoquée d'une amélioration au mois d'avril pourrait se transformer en printemps sous confinement.
Et c'est dans ce contexte, Anne-Lorraine Bujon, que vous nous proposez donc ce numéro d'Esprit, intitulé donc « Science sans confiance », avec ce dossier absolument passionnant et critique. Et j'ai retenu notamment le papier, la contribution d'Isabelle Stengers, qui préconise, reprenant Bruno Latour, une sorte d'atterrissage de la science, c'est-à-dire un peu plus d'humilité, par exemple.
Oui, c'est ça. Donc Isabelle Stengers donc a accepté de se prêter au jeu, de s'interroger sur les liens entre science et croyance ou science et confiance. Dans ce contexte, où comme les reportages viennent de nous le rapporter, il y a une vraie crise de confiance, peut-être pas tant dans les scientifiques que dans le gouvernement ou la façon dont il applique les recommandations des scientifiques. Isabelle Stengers commence par montrer que il y a de la croyance dans la science. Enfin, si les chercheurs parviennent à travailler, c'est bien parce qu'ils ont un cadre de référence partagé, qu'ils croient tous à leur méthode, qu'ils acceptent la validité des objections de leurs collègues, et que c'est ainsi que, par la méthode expérimentale, l'administration de la preuve, etc., ils arrivent à construire patiemment un savoir. Elle fait aussi le lien entre cette crise de la pandémie que nous sommes en train de traverser et la crise écologique. Et elle montre que parfois on sait, mais on ne croit pas. C'est-à-dire que pour ce qui concerne le changement climatique, par exemple, on le sait, les choses ont été montrées, elles ont été démontrées, et pourtant on n'arrive pas à agir. Peut-être parce que on a peur d'être impuissant, on a peur d'arriver trop tard. Donc Isabelle Stengers ne remet pas du tout en cause qu'il existe des vérités scientifiques. Elles existent, bien sûr, mais elle souligne en fait la différence entre une science pure, une science théorique qui se fabrique dans les laboratoires patiemment, pas à pas, et le moment où la science doit sortir du laboratoire, le moment où elle va être appliquée. Et dès qu'on parle d'application de la science, de l'utilisation des vaccins par exemple, se présente tout un tas de questions qui, elles, ne sont pas strictement scientifiques. La campagne de vaccination, elle a une dimension politique, bien sûr, elle a une dimension économique, elle a une dimension logistique. Et ce que préconise Isabelle Stengers, c'est que les scientifiques ne se dédouanent pas, en fait, de leurs responsabilités, y compris quand on est sorti du cadre de la science stricte, et qu'ils acceptent, en fait, de se poser aussi des questions non scientifiques ou de laisser des questions non scientifiques entrer dans les laboratoires. Il faut penser au jour où les recherches sortent des laboratoires et où elles ont des conséquences dans la vie bien réelle. Et à ce moment-là, sans doute qu'il faut accepter d'entrer en dialogue avec les gens sur qui toutes ces innovations scientifiques vont avoir des effets très concrets et très immédiats. Donc, en effet, elle préconise une forme d'humilité, mais aussi une forme de responsabilité propre au champ scientifique et d'accepter de se poser des questions sur tout ce qu'on sait, mais aussi tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne maîtrise pas. Il faut faire atterrir les sciences parce que finalement les sciences sont terrestres, elles aussi. Elles sont soumises à l'incertitude, à l'imprévisible, aux conditions bien réelles de notre vie sur Terre.
Et nous allons continuer à parler de ce dossier dans un instant avec vous, Anne-Lorraine.
pour nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire comme chaque semaine, comme chaque jour. Je commence nos dédicaces en saluant Mayoro Gay qui nous écoute avec fidélité à Dakar. Il a particulièrement apprécié les analyses de Vincent Hugeux, notre invité samedi dernier, qu'il a écouté autour d'un thé en compagnie de ses copains. Merci Mayoro, je pense que vous appréciez aussi les propos d'Anne-Lorraine Bujon aujourd'hui. Un salut également à Abdoulaye, à Amadou, à Conakry, à Félix, à Lomé. Bonjour à Sorel, à Pointe-Noire, à Yves, qui nous écoute lui à Kiwanja, en Tanzanie. Et je n'oublie pas Elisabeth, à Antananarivo, la capitale de Madagascar.
Sept jours en Afrique.
Partons pour l'Afrique, effectivement, Anne-Lorraine Bujon, et je sais que la revue Esprit aime l'Afrique. Après un long silence, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a dû reconnaître l'évidence sur la situation au Tigré. La province est en guerre depuis début novembre, déplaçant des centaines de milliers de personnes. Plus de 3 millions d'individus ont besoin d'assistance et il y a des victimes de graves violations des droits de l'homme à Addis Abeba, Noé Hochet-Baudin.
Fin novembre, le message d'Abiy Ahmed tenait en deux points. La guerre est finie et n'a fait aucune victime civile. Aujourd'hui, sous pression, le discours du Premier ministre a changé.
Les soldats qui ont commis des atrocités et violé nos sœurs tigréennes seront jugés pour leurs actes. Nous avons demandé aux soldats de combattre le parti du TPLF, pas les populations civiles.
Autre concession et pas des moindres, Abiy Ahmed reconnaît la présence de son allié, l'armée érythréenne, qui est entrée au Tigré en plaidant la légitime défense, selon lui.
L'Érythrée est intervenue au Tigré car elle craignait pour sa sécurité nationale. Nous combattons le TPLF dans le centre de la province et ils avaient peur qu'ils s'attaquent à eux le long de la frontière.
Sauf que c'est justement les Érythréens qui sont pointés du doigt par la communauté internationale, suspectés de massacres, de pillages et de viols à grande échelle.
Il y a eu des abus. On entend parler de pillages notamment. Nous avons fait part aux Érythréens de notre inquiétude et ils ont nié fortement toute responsabilité. Ils nous ont promis qu'ils puniraient tout soldat érythréen coupable de ce genre de violation.
Des promesses probablement trop légères pour calmer les craintes des Européens et des États-Unis qui demandent encore et toujours le retrait des soldats érythréens et la tenue d'enquêtes indépendantes par des organisations de défense des droits de l'homme.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, au moins une soixantaine de personnes ont été tuées dimanche dernier dans une nouvelle attaque dans le nord-ouest du Niger. C'est la deuxième fois en une semaine que des civils nigériens sont les victimes de groupes armés. Il y a près de deux semaines, une attaque vers Manibangou dans la région de Tillabéri, cette fois à l'ouest du pays, avait fait 66 victimes. Notre envoyé spécial Gaël Lalex a pu rencontrer des blessés de Manibangou rapatriés à Niamey pour leurs soins. Ils ont accepté de partager leur témoignage.
Assis sur une natte, la jambe cachée par des bandages, Ibrahim Harouna, imam du village de Dareidey, revit l'attaque dans ses détails.
C'est après la prière de 16 heures que les motos sont arrivées. Les hommes armés ont ouvert le feu sur le village, faisant fuir les animaux. Certains ont brûlé tous nos greniers de céréales, d'autres ont suivi le bétail pour le voler et ont tué les villageois qui étaient sur leur passage. 8 personnes ont été assassinées.
Abdoulaye, lui, revenait de la foire de Banibangou quand son bus est arrêté par des hommes venus à moto. Les assaillants tirent à bout portant sur certains passagers. Abdoulaye reçoit une balle dans les côtes.
Une fois que j'ai été touché, je me suis couché face au sol. Les bandits ont pris le couteau que je portais à la hanche. Ils ont voulu me poignarder. J'ai retenu mon souffle et je les ai entendus dire « C'est bon, il est mort, on peut le laisser ». Dès que j'ai vu les motos, je savais que c'était fini pour moi.
Dans cette attaque, les assaillants ont scrupuleusement choisi leurs victimes. Choqué, Amadou Sossi, chef du village de Dareidey, rappelle que la cohésion sociale doit être la plus forte.
Nous devons rester les mêmes. Cet événement ne doit pas nous changer. Nous ne sommes pas méchants. Nous n'avons pas d'armes, ni de bâtons, ni de machettes. Et nous comptons sur le bon Dieu pour amener la réconciliation.
Les autorités ont annoncé le déploiement de militaires supplémentaires dans la région de Tillabéri.
Suite à une semaine d'actualité en compagnie d'Anne-Lorraine Bugeon, avant de vous retrouver Anne-Lorraine, il nous faut continuer et conclure notre voyage africain. Et c'est tout sauf une surprise. Je vous rappelle que le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, a été réélu dès le premier tour à la tête du Congo, au Brazzaville. Plus surprenant, en revanche, c'est la disparition de l'opposant Guy Brice Parfait-Kolela. Sa famille a réagi aux conclusions de l'enquête diligentée par la justice française après la mort de l'opposant congolais décédé dans la nuit de dimanche à lundi en France. Dans un communiqué daté du 23 mars, le parquet de Bobigny confirme qu'il est bien mort de la Covid-19, mais ses proches affirmaient hier encore être toujours dans l'attente des résultats de l'autopsie. Florence Maurice, hier.
L'autopsie a été pratiquée mardi par l'Institut médico-légal de Paris, selon le communiqué du parquet, dans le cadre de l'enquête ouverte par la justice française après la mort de l'opposant. Elle a révélé que les poumons de Guy Brice Parfait-Kolela étaient très altérés et conclut que l'opposant était décédé d'une insuffisance respiratoire due à une pneumopathie diffuse sévère, compatible avec une contamination au Covid-19, par ailleurs confirmée par des examens virologiques. Un communiqué explicite donc, mais qui a suscité une vive réaction de la famille de l'opposant, qui assure, elle, n'avoir toujours pas reçu les résultats de l'autopsie. Serge Bakana Kolelas, l'un des frères du défunt.
L'épouse Kolela et la famille Kolelas affirment n'avoir reçu aucune conclusion. Je dis bien, aucune conclusion de l'Institut médico-légal. Donc, une communication officielle aura lieu une fois les résultats connus. On est très étonnés, et c'est pour cela qu'on appelle un peu au respect et à la dignité pour la mémoire de notre frère.
La disparition de Guy Brice Parfait-Kolela, quelques heures après la clôture des bureaux de vote pour la présidentielle de dimanche, a suscité une vive émotion parmi ses partisans et alimenté toutes sortes de rumeurs. Il était considéré comme le principal opposant à Denis Sassou Nguesso, réélu dès le premier tour, selon les résultats provisoires de la commission électorale.
Alors, Anne Bugeon, d'évidence, la cacophonie, les discussions, les controverses, les divergences entre les médecins depuis un an autour de la Covid-19 ont alimenté une certaine méfiance à l'égard de la science et plus précisément à l'égard de la médecine. C'est un des aspects que vous traitez dans ce dossier.
Oui, alors en réalité, je crois que cette crise de la pandémie, elle nous trouve dans un moment où on était déjà plus dans une grande idylle avec la science et le progrès. C'est une chose que rappelle Michael Fessel dans son texte, comme après la Première Guerre mondiale ou après la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu cette grande épidémie de grippe espagnole qui a tué un très grand nombre de personnes, à un moment où on voyait bien aussi que la science et le progrès n'apportent pas que des bonnes choses et peuvent déboucher sur des guerres et des guerres terrible et terriblement meurtrière. Donc la crise, elle nous touche dans un moment où déjà la foi dans la science et le progrès sont en partie atteintes, ce qui ne change rien au fait qu'on puisse avoir conscience, je le disais tout à l'heure, des grandes conquêtes scientifiques, des grandes conquêtes médicales des dernières époques.
Alors il faut aussi noter, même s'il n'est pas tout à fait dans le dossier, inclus dans le dossier, un article que j'ai trouvé également très intéressant de Johanna Lenne Cornuez au début de ce numéro de la revue sur l'essentiel. Comment s'approprier l'essentiel? C'est aussi une des réflexions que beaucoup ont formulées pendant ce confinement, ces confinements depuis un an en tout cas.
Oui, alors là, ça touche à autre chose qui est en fait aussi le besoin de récit, le besoin de sens, le besoin de comprendre ce qui nous arrive. Un thème qui est aussi traité par Jean-Louis Schlegel dans son article sur l'épidémie, où il rappelle que dans des épidémies précédentes, on a pu se tourner vers la religion pour qu'elle nous explique en fait, y compris en voyant dans l'épidémie un châtiment divin, mais donc aussi pour que la religion nous montre la voie de comment est-ce qu'on pourrait se comporter, de ce à quoi on tient, de ce qui mérite d'être sauvé dans des circonstances comme celle-ci, alors que ce à quoi on assiste, nous, depuis un an, c'est qu'on est tout à fait démunis, désemparés devant l'ampleur de la crise, une crise sur laquelle notre rationalité technoscientifique n'a finalement pas grand-chose à dire. Elle peut nous parler du virus, elle peut nous parler des vaccins, elle peut nous parler des variants, mais sur la façon dont tout ça nous affecte dans nos vies quotidiennes, dans nos liens avec nos amis, avec nos proches, dans notre façon à nous représenter dans l'espace et dans le temps, elle est singulièrement dépourvue de réponses. Et donc, on voit bien qu'on a besoin d'un autre cadre de rationalité pour penser, pour comprendre ce qui nous arrive et pour y résister.
Je voudrais que nous terminions, Anne-Lorraine Bujon, cette édition d'une semaine d'actualité en votre compagnie, avec un peu l'histoire de la revue Esprit à travers un livre qui a été écrit par Léa et Hugo Domena, qui s'intitule « Les murs blancs », un livre publié chez Grasset. Où sont ces murs blancs ?
Alors, les murs blancs, c'est une propriété qui se trouve à Châtenay-Malabry, dans la banlieue parisienne. Et c'est une propriété où se sont installés, dans l'immédiate après-guerre, le philosophe Emmanuel Mounier, qui est le fondateur de la revue Esprit, avec plusieurs de ses collaborateurs, dont les liens s'étaient resserrés, notamment dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils se sont donc installés dans cette propriété pour y vivre en communauté après-guerre, une communauté donc à la fois humaine, sociale, politique et intellectuelle. Donc 6 familles se sont installées au mur blanc, les Mounier, les Fraisses, les Marou, les Baboulène, les Domnac et puis un peu plus tard les Ricoeur, la famille du philosophe Paul Ricoeur qui a aussi été une figure de référence pour notre revue Esprit. Léa et Hugo Domnac racontent avec beaucoup de talent, beaucoup de simplicité cette histoire des murs blancs dans leur livre qui vient de paraître chez Grasset et ils essayent de comprendre quels étaient les liens qui unissaient ces 6 familles, comment elles ont cherché à œuvrer en commun en faisant un travail intellectuel collectif mais aussi en simplifiant dans la vie de la cité autour d'eux, la vie locale, la vie politique. Et nos deux jeunes auteurs racontent certaines des réussites de cette communauté. Ils racontent aussi certaines des épreuves, des difficultés, des tensions, des troubles, notamment après mai 68, quand les changements de mœurs viennent beaucoup troubler ces familles qui, pour l'essentiel, sont très croyantes, catholiques ou protestantes. Et je crois qu'ils nous livre là une réflexion sur ce que c'est que d'être un intellectuel engagé, au-delà de son travail immédiat, universitaire, littéraire, historique. Qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de réfléchir à plusieurs et pour peut-être contribuer à créer un monde meilleur. Donc c'est un très joli livre qui évidemment nous est cher à la revue Esprit puisqu'il raconte une partie de notre histoire. Un livre dont on a voulu se faire l'écho, donc il est chroniqué dans la revue par Jean-Louis Schlegel qui est un membre déjà ancien de notre comité de rédaction, un peu une mémoire de la revue. Et puis on a aussi demandé à une jeune étudiante en philosophie, Margot Cassan, de nous aider à réfléchir à ce que cette histoire avait d'intéressant pour les jeunes générations. Est-ce que ça paraît incroyablement daté ou est-ce que de jeunes intellectuels aujourd'hui pourraient à leur tour vouloir tenter ce genre de vie communautaire ?
Je trouve ça d'ailleurs passionnant, Anne-Lorraine, que plusieurs générations d'intellectuels se penchent sur l'histoire de la revue Esprit.
Oui, alors l'histoire de la revue Esprit, elle se mélange, c'est bien naturel, à l'histoire intellectuelle et politique française. Donc, si on revient sur cette histoire maintenant, je crois que c'est aussi parce que plusieurs pages se sont tournées. On peut penser au fait que la revue Le Débat est fermée à l'automne dernier, et donc avec le sentiment que la vie intellectuelle française n'est plus ce qu'elle était, qu'elle n'est plus animée par les mêmes sujets, qu'elle n'est plus animée par les mêmes personnes, par les mêmes convictions, peut-être. Revenir sur l'histoire de la revue Esprit pendant le XXe siècle, c'est, je l'ai dit très rapidement, revenir sur les années 30, quand la revue a été fondée, parce que Emmanuel Mounier et ses collaborateurs s'inquiétaient de la montée des fascismes, donc ils s'inquiétaient pareillement de la montée du communisme, de la montée du fascisme, puis du nazisme. Et on sait que ces années 30, malheureusement, aujourd'hui nous semble de nouveau très actuel, ou en tout cas il y a des leçons des années 30 pour l'époque qu'on vit. Et puis c'est aussi l'histoire de la résistance, c'est aussi l'histoire de la décolonisation, l'histoire de la guerre d'Algérie.
Donc Anne-Lorraine Bujon, ce livre, Les Murs Blancs, c'est l'histoire de la revue Esprit.
Ça raconte en effet une partie de l'histoire de la revue Esprit en tant qu'elle se jouait dans cette propriété de Châtenay-Malabry. Et donc avec ces chapitres que j'ai trouvés particulièrement intéressants, notamment sur l'histoire de la guerre d'Algérie, quand les intellectuels de la revue Esprit prennent fait et cause pour la décolonisation, et en même temps ils se méfient du FLN, donc ils se retrouvent à la fois perquisitionnés par la police française, parce qu'ils sont soupçonnés d'amitié avec les décolonisateurs et les indépendantistes, mais aussi menacés par l'OAS qui tague les murs de la propriété. Voilà. Donc, on mesure à quel point l'histoire de cette revue est liée à l'histoire intellectuelle et politique de la France dans ces années-là.
Merci Anne-Lorraine Bujon. Donc l'aventure continue. Il faut lire la revue Esprit de mars 2021, intitulée « Science sans confiance ». Merci et à la prochaine fois, au mois prochain Anne-Lorraine.
Merci, au revoir.
Une semaine d'actualité réalisée par Steven Hesley. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine Idées, bien sûr. Nous parlerons des primitivismes, de l'influence des arts africains dans l'art moderne, en France, en Europe. Notre invité sera Philippe Dagen, journaliste, critique et historien de l'art, Idées. Demain, 15h10, temps universel, 17h10 à Paris. Attention, nous avons décalé d'une heure à Paris. Nous sommes passés de 16h10 à 17h10. Mais on ne peut conclure cette édition d'une semaine d'actualité sans revenir sur la disparition d'un amoureux du cinéma. Bertrand Tavernier était à la fois un grand réalisateur et une encyclopédie du 7e art, Sophie Torlotin.
L'engagement, Bertrand Tavernier l'aura sans doute reçu en héritage d'un père écrivain et gaulliste pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Bertrand, né à Lyon en 1941, se distinguera en choisissant comme art le cinéma et comme famille politique la gauche.
Je me sens là-dessus un héritier de gens comme Jacques Prévert, et puis comme des gens qui se sont toujours battus, qui ne sont pas passés du maoïsme au sarkozysme.
Assistant sur Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville, Bertrand Tavernier devient attaché de presse des films des figures de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard ou Claude Chabrol. Il passe à la réalisation en 1974 avec L'horloger de Saint-Paul, puis ce superactif n'arrêtera plus de tourner près de 30 films explorant tous les genres, policiers, documentaires, films d'époque, de guerre, science-fiction ou films musicaux avec Autour de minuit sur le jazzman Lester Young. Ce fou de cinéma réfute toutes les chapelles et revendique son admiration pour le classicisme et le partage.
Les admirations que j'éprouve, j'aime les faire connaître à des gens qui sont proches, mais aussi à des gens que je ne connais pas.
Bertrand Tavernier aura souhaité communiquer sa passion jusqu'au bout. Son tout dernier film était un documentaire, Voyage à travers le cinéma français, diffusé en 2016.
Une semaine d'actualité, bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
Éco d'ici.